RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Et ensuite, nous allons également présenter l'histoire d'aujourd'hui et l'Indonésie. L'arbitre suivante, magazine culturel et apprendre l'indonésien. Avant de terminer cette émission, vous allez écouter également des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à toutes et à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Le président indonésien Joko Widodo a assisté à l'ouverture du 33e sommet de l'ASEAN. Le président Jokowi encourage l'ASEAN à s'impliquer pour surmonter la crise dans l'état de Rakhine. L'ambassadeur a mentionné que l'investissement de Singapour était plus grand en Indonésie. L'Université de Muhammadiyah Malang soutient Malang en tant que la ville touristique halal. Des artistes indonésiens exposent leurs œuvres à l'Australie. Les nids hirondelles indonésiennes sont de plus en plus connus en Chine. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Le président Joko Widodo et la première dame Iriana Joko Widodo ont assisté à l'ouverture du 33e sommet de l'ASEAN au Suntec Convention Center à Singapour mardi. Avant d'entrer dans la salle d'attente, le président et madame Iriana ont pris une photo avec le premier ministre de Singapour, Lee Hsien Loong, et madame Ho Ching. Le président et madame Iriana, ainsi que les chefs d'État et de gouvernement de l'ASEAN, ont dirigé la salle de cérémonie, le Suntec Convention Center à Singapour, pour assister à la cérémonie d'ouverture du sommet de l'ASEAN. Après avoir assisté à la cérémonie d'ouverture, tous les chefs d'État et de gouvernement de l'ASEAN se sont rendus à la deuxième séance plénière pour assister à la présentation du Conseil consultatif des entreprises de l'ASEAN, les chefs d'État et de gouvernement des pays de l'ASEAN. Les chefs d'État et de gouvernement de l'ASEAN sont le premier ministre singapourien Lee Hsien Loong, le premier ministre thaïlandais Prayut Chan-o-cha, le sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, le premier ministre cambodgien Hun Sen, le premier ministre Lau Tung Lun, le premier ministre Malaisie Mahathir Mohamad, conseiller d'État de Myanmar Aung San Suu Kyi, le président philippin Rodrigo Duterte et le premier ministre vietnamien Nguyen Xuan Phuc. Le président Joko Widodo a invité les pays membres de l'ASEAN à participer à la résolution de la crise humanitaire dans l'état de Rakhine, Myanmar. C'était l'un des points importants soulevés par le président lors de la séance plénière du 33e sommet de l'ASEAN au Suntec Convention Center à Singapour, mardi 13 novembre. Selon le président, pendant plus de 50 ans, la région de l'Asie du Sud-Est peut jouir d'une situation de sécurité et de paix, Selon l'histoire, l'ASEAN fait partie de la résolution des problèmes régionaux et mondiaux. Comme l'a dit le président, l'ASEAN a besoin de l'engagement de tous les pays membres de maintenir la paix et la prospérité dans la région en tant que famille. La crise humanitaire dans l'état de Rakhine n'est pas encore résolue. Cette crise a suscité des inquiétudes et créé un déficit de confiance dans la communauté internationale. Selon le président, concernant cette question, l'ASEAN devrait être présent et impliqué dans la résolution du problème. Singapour est classé comme pays de premier rang à investir activement en Indonésie dans divers domaines industriels. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur d'Indonésie à Singapour, Ngurah Swajaya, en marge du 33e sommet de l'ASEAN à Santé Convention Center à Singapour. La valeur de l'investissement de Singapour en Indonésie de janvier à septembre 2018 a été enregistré 6,7 milliards de dollars américains. Il a indiqué que la réunion entre le président Joko Widodo et le premier ministre singapourien Lee Hsien Loong à Bali en octobre 2018 pourrait permettre d'accroître les investissements de Singapour à l'Indonésie de 10 jusqu'à 15% à la fin de l'année. Lors de l'entretien, les deux chefs d'État ont discuté de l'accord de garantie des investissements. Cet accord est important pour garantir la sécurité des investissements aux entrepreneurs de Singapour. L'accord renforce la confiance des entrepreneurs singapouriens en matière d'investissement en Indonésie. L'un d'entre eux qui devient le problème est de discuter concernant le règlement de différendes lorsque des entrepreneurs singapouriens investissent en Indonésie. Il y a alors un différend et le mécanisme de résolution du problème a été convenu entre l'Indonésie et Singapour. Vous écoutez toujours le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. L'Université de Muhammadiyah Malang, ou UMM, a exprimé son soutien à ce que Malang devienne une ville touristique halal. Cela a été confirmé par la coopération avec l'Agence de la culture et du tourisme de la ville de Malang à travers des vias de bazar halal au campus Muhammadiyah Malang. Tous les produits halal ayant des besoins domestiques à la nourriture animent également le bazar d'une journée. À cette occasion, le maire de Malang, Sutiaji, accompagné du recteur de UMM, M. Fauzan, a officiellement inauguré le bazar halal 2018. En plus d'être suivi par les micro et petites moyennes entreprises, le bazar a été assisté par le professeur des étudiants possédant des produits avec des marques certifiées halal. Sutiaji a admis qu'il appréciait grandement les mesures du UMM qui correspondaient à la vision de la ville touristique halal. Quatre artistes indonésiens contemporains de talent participeront à la 9e exposition d'art contemporain d'Asie Pacifique qui ouvrira à Brisbane, en Australie, le 24 novembre 2018. Les œuvres Aditya Novali, Elia Norvista, Handi Wirman Saputra et Ziko Albaikuni seront exposées avec plus de 80 artistes de 30 pays Asie-Pacifique jusqu'au 28 avril 2019. C'est ce qu'a déclaré l'artiste Ziko Albaikuni, cité par Antara à Jakarta récemment. Quatre participants indonésiens se joindront à plus de 50 des artistes indonésiens contemporains les plus reconnus ayant participé depuis le lancement de la série de APT en 1993. Le programme de 3 ans comprendra des installations, des peintures, des sculptures, des photos et des vidéos d'artistes. En outre, pendant les 6 mois de l'exposition, il y a également des programmes de cinéma et des symposiums universitaires, des visites, des discussions et des ateliers, des expériences créatives pour les enfants et les événements spéciaux pour tous les âges. Alistair Cox, l'ambassadeur adjoint australien en Indonésie, a déclaré que cette exposition était l'une des célébrations des arts les plus importantes dans la région Asie-Pacifique et avait attiré un public de partout dans le monde. L'Australie et l'Indonésie ont des relations à long terme dans le domaine de l'art avec diverses expositions, échanges, collaborations, résidences et subventions qui font les relations entre les acteurs créatifs des deux pays plus proches. Les nids hirondelles indonésiennes sont de plus en plus connues et favorisées par les Chinois. Compte tenu de nombreuses conditions en matière de qualité et de santé ont été reconnues. Les nids sont sans danger pour la consommation. Comme cité par l'agent de presse Antara, le président de l'Association indonésienne des entrepreneurs pour les nids oiseaux, Budi Mranata, a déclaré mercredi à la presse de Shanghai, en Chine, qu'il était difficile de fournir des nids d'oiseaux à la Chine, parce que de 2010 jusqu'à 2011, les nids d'oiseaux indonésiens ont été interdits d'entrée. À cette époque, l'Indonésie était touchée par la grippe aviaire. Il a ajouté qu'avec la demande croissante de nids d'oiseaux en Chine, le ministère indonésien du commerce estimait qu'il était nécessaire de définir des règles claires, notamment en matière de qualité. Le ministère du commerce et l'agence de quarantaine contribuent également à la santé et à l'hygiène des produits de nids d'oiseaux destinés à l'exportation. Actuellement, le nombre de sociétés de nidification d'oiseaux ayant le droit d'exporter atteint 21 sociétés avec une production annuelle de 1105 tonnes. L'association continue à encourager le nombre d'exportateurs à augmenter afin de pouvoir répondre à la demande d'exportation. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les commentaires, les points de vue de RRI World Service, la Voix de l'Indonésie, sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « L'idée du président français Emmanuel Macron de créer une armée commune européenne continue d'être un sujet de discussion ». Contrairement à Trump, le président de la Russie, Poutine, a exprimé son soutien à l'idée d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, depuis qu'il est devenu président de la France l'année dernière, continue d'encourager son idée de former une armée commune européenne. Selon lui, l'Europe doit se protéger de la Chine, de la Russie et des États-Unis. Pour la déclaration faite aux journalistes il y a quelques jours, le président des États-Unis a déclaré qu'il s'agissait d'une insulte, mais cette déclaration provocante a été saluée par Vladimir Poutine. Le président russe a montré une attitude différente de celle du président des États-Unis. De Moscou, Poutine a exprimé son soutien total à l'idée du président français Emmanuel Macron. Selon le président Vladimir Poutine, l'idée de Macron est un développement positif au niveau multilatéral. Selon Poutine, l'Europe a le droit d'être souveraine et indépendante dans le secteur de la sécurité. Dans sa déclaration, Poutine a indiqué que l'Europe réduirait sa dépendance à l'égard des États-Unis qui donnent subvention à l'OTAN. Du côté des États-Unis, la déclaration de Macron et Poutine est en réalité une contre-attaque de Trump. Par sa déclaration, Emmanuel Macron a également donné une contre-attaque à Trump pour la déclaration qu'il avait faite. Donald Trump, il y a quelque temps, a déclaré qu'il se retirait de l'accord de limitation des armes nucléaires INF formé en 1980. La déclaration de Trump a suscité des inquiétudes sur les conditions de la sécurité européenne. Que l'idée d'Emmanuel Macron soit bientôt réalisée, il faut encore attendre la dynamique multilatérale et les opinions des dirigeants européens. La France doit encore attendre une réponse des autres dirigeants européens. Parmi les nombreux dirigeants européens, la chancelière allemande Angela Merkel a montré une réponse positive. Bien que l'idée de Macron nécessite encore des efforts et du temps pour être réalisée, l'idée du président français a donné de l'influence dans les relations entre l'Europe, les États-Unis et la Russie. La formation d'une armée européenne commune constituera une défense alternative en dehors de l'OTAN. Chers amis, c'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les faits historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Chers amis, voici donc l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement la journée de la brigade mobile ou BRIMOB le 14 novembre 1946. BRIMOB d'abord a été formé avec le nom de Tokubetsu Keisatsu Tai ou les forces de police spéciale. Cette unité était initialement chargée de désarmer l'armée japonaise, de protéger le chef de l'État et de défendre la capitale. Le 14 novembre 1946, le premier ministre Sultan Syahril a formé Mobile Brigade ou Mobrik pour remplacer les forces de police spéciale. Ce corps est connu sous le nom de Corps de Béret Bleu Foncé. Cette date est fixée comme l'anniversaire du Corps de Béret Bleu. Le 14 novembre 1961, l'unité de Mobrik est transformée en Corps de Brigade Mobile ou le Corps de BRIMOB. L'autre information est sur la journée mondiale du diabète et célèbre pour la première fois le 14 novembre 1991. La célébration de la journée mondiale du diabète vise à renforcer la sensibilisation mondiale sur le risque de diabète et aussi pour inviter la société à intensifier les activités de prévention du diabète qui augmentent chaque année. Depuis 1991, la Fédération internationale du diabète et l'Organisation mondiale de la santé, ou OMS, ont fixé le 14 novembre comme journée mondiale du diabète, car il est aussi l'anniversaire de Frederick Grenbenting, le découvreur de l'insuline, des médicaments contre le diabète en 1922. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement. Les combattants de l'Alliance du Nord ont repris la capitale Kaboul le 14 novembre 2001. Après l'attentat contre le World Trade Center WTC aux États-Unis le 11 septembre 2001, les États-Unis ont lancé une campagne de la guerre contre le terrorisme en Afghanistan visant à renverser les talibans étant accusés de protéger Al-Qaïda et d'arrêter Osama bin Laden, le chef d'Al-Qaïda. Les États-Unis mobilisent le pouvoir de l'OTAN et d'autres pays comme la Grande-Bretagne, la France, les Pays-Bas et l'Australie. Les Américains ont rassemblé des opposants talibans dans le nord de l'Afghanistan qui se sont unis pour former l'Alliance du Nord. En octobre, avec le soutien aérien des États-Unis et de l'OTAN, l'Alliance du Nord a commencé à mener une guerre contre les talibans. Le 14 novembre 2001, l'Alliance du Nord a réussi à renverser les talibans qui dirigent l'Afghanistan depuis 1996. C'est l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Chers auditeurs, pour la rubrique suivante, voici donc mon Indonésie ayant pour le titre 6 aéroports ont remporté le prix comme aéroport 5. 6 aéroports ont remporté le prix comme aéroport 5 du ministère indonésien de la Santé dans le cadre de la commémoration de la 54e Journée nationale de la santé 2018. Ces aéroports sont l'aéroport international Soekarno-Hatta à Tangerang, Banten, l'aéroport Hussein Sastra Negara à Bandung, Jawa West, l'aéroport Raja Fisabilillah à Tanjung Pinang, les îles de Riau, l'aéroport international Lombok à Nusa Tenggara Occidental, L'aéroport international Sultan Haji Muhammad Sulaiman à Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Oriental, et l'aéroport Adi Sumarmo à Solo, Java Central. Ce prix a été remis par la directrice générale du ministère indonésien de la Santé, Dr. Kirana Pritasari, à Indonesian Convention Exhibition BSD City, Tangerang, Banten, samedi. L'aéroport international Soekarno-Hatta lui-même a été remporté le meilleur aéroport en bonne santé 2018. Ce prix est fourni grâce aux réalisations dans la mise en œuvre du programme de travail dans le secteur de la santé, en particulier pour le maintien d'un environnement sain dans la zone aéroportuaire. Le responsable principal du contrôle des risques de sécurité et de la qualité de l'aéroport international Soekarno-Hatta, Syaiful Bahri, a expliqué qu'auparavant, une série d'évaluations avait déjà été faite par le ministère de la Santé dans la catégorie des ports et des aéroports. Les catégories évaluées sont entre autres l'environnement aéroportuaire dans l'aérogare, du côté terrestre et du côté aérien. Les critères d'évaluation de l'aéroport en bonne santé 2018 comprennent notamment la mise en œuvre de la santé de l'environnement, l'aménagement des installations et des infrastructures, l'amélioration du mode de vie sain et propre, l'amélioration de la sécurité et de la santé au travail et l'amélioration de la sécurité et de l'ordre. Toutes ces activités sont énumérées dans le règlement numéro 44-2014 du ministre de la Santé concernant les opérations des ports et des aéroports en bonne santé. Ce prix est fourni aux aéroports qui ont rempli les conditions du règlement du ministère de la Santé. Le prix du port et de l'aéroport en bonne santé sont des prix organisés chaque année par le ministère indonésien de la Santé. Serviteur, c'était mon Indonésie de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Le président Joko Widodo et la première dame Iriana Joko Widodo ont assisté à l'ouverture du 33e sommet de l'ASEAN au Santé Convention Center à Singapour mardi. Avant d'entrer dans la salle d'attente, le président et Madame Iriana ont pris une photo avec le Premier ministre de Singapour, Lee Hsien Loong, et Madame Ho Ching. Le président et Madame Iriana, ainsi que les chefs d'État et de gouvernement de l'ASEAN, ont dirigé la salle de cérémonie, le Santé Convention Center à Singapour, pour assister à la cérémonie d'ouverture du sommet de l'ASEAN. Après avoir assisté à la cérémonie d'ouverture, tous les chefs d'État et de gouvernement de l'ASEAN se sont rendus à la deuxième séance plénière pour assister à la présentation du Conseil consultatif des entreprises de l'ASEAN, les chefs d'État et de gouvernement des pays de l'ASEAN. Les chefs d'État et de gouvernement de l'ASEAN sont le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong, le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-o-cha, le Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, le Premier ministre cambodgien Hun Sen, le Premier ministre Lau Tung Lun, le Premier ministre Malaisie Mahathir Mohamad, conseillère d'État de Myanmar Aung San Suu Kyi, le président philippin Rodrigo Duterte et le Premier ministre vietnamien Nguyen Xuan Phuc. Le président Joko Widodo a invité les pays membres de l'ASEAN à participer à la résolution de la crise humanitaire dans l'état de Rakhine, Myanmar. C'était l'un des points importants soulevés par le président lors de la séance plénière du 33e sommet de l'ASEAN au Santé Convention Center à Singapour, mardi 13 novembre. Selon le président, pendant plus de 50 ans, la région de l'Asie du Sud-Est peut jouir d'une situation de sécurité et de paix. Selon l'histoire, l'ASEAN fait partie de la résolution des problèmes régionaux et mondiaux. Comme l'a dit le président, l'ASEAN a besoin de l'engagement de tous les pays membres de maintenir la paix et la prospérité dans la région en tant que famille. La crise humanitaire dans l'état de Rakhine n'est pas encore résolue. Cette crise a suscité des inquiétudes et créé un déficit de confiance dans la communauté internationale. Selon le président, concernant cette question, l'ASEAN devrait être présent et impliqué dans la résolution du problème. Singapour est classé comme pays de premier rang à investir activement en Indonésie dans divers domaines industriels. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur d'Indonésie à Singapour, Ngurah Swajaya, en marge du 33e sommet de l'ASEAN à Santé Convention Center à Singapour. La valeur de l'investissement de Singapour en Indonésie de janvier à septembre 2018 a été enregistrée 6,7 milliards de dollars américains. Il a indiqué que la réunion entre le président Joko Widodo et le premier ministre singapourien Lee Hsien Loong à Bali en octobre 2018 pourrait permettre d'accroître les investissements de Singapour à l'Indonésie de 10 jusqu'à 15% à la fin de l'année. Lors de l'entretien, les deux chefs d'État ont discuté de l'accord de garantie des investissements. Cet accord est important pour garantir la sécurité des investissements aux entrepreneurs de Singapour. L'accord renforce la confiance des entrepreneurs singapouriens en matière d'investissement en Indonésie. L'un d'entre eux qui devient le problème est de discuter concernant le règlement de différendes lorsque des entrepreneurs singapouriens investissent en Indonésie. Il y a alors un différend et le mécanisme de résolution du problème a été convenu entre l'Indonésie et Singapour. Vous écoutez toujours le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. L'Université de Muhammadiyah Malang, ou UMM, a exprimé son soutien à ce que Malang devienne une ville touristique halal. Cela a été confirmé par la coopération avec l'Agence de la culture et du tourisme de la ville de Malang à travers des bazars halal au campus Muhammadiyah Malang. Tous les produits halal ayant des besoins domestiques à la nourriture animent également le bazar d'une journée. À cette occasion, le maire de Malang, Sutiaji, accompagné du recteur de UMM, M. Fauzan, a officiellement inauguré le bazar halal 2018. En plus d'être suivi par les micro et petites moyennes entreprises, le bazar a été assisté par le professeur des étudiants possédant des produits avec des marques certifiées halal. Soutien-Dié a admis qu'il appréciait grandement les mesures du UMM qui correspondaient à la vision de la ville touristique halal. Quatre artistes indonésiens contemporains de talent participeront à la 9e exposition d'art contemporain d'Asie Pacifique qui ouvrira à Brisbane, en Australie, le 24 novembre 2018. Les œuvres Aditya Novali, Elia Norvista, Handi Wirman Saputra et Zico Albaikuni seront exposées avec plus de 80 artistes de 30 pays Asie-Pacifique jusqu'au 28 avril 2019. C'est ce qu'a déclaré l'artiste Zico Albaikuni, cité par Antara à Jakarta récemment. Quatre participants indonésiens se joindront à plus de 50 des artistes indonésiens contemporains les plus reconnus ayant participé depuis le lancement de la série de APT en 1993. Le programme de 3 ans comprendra des installations, des peintures, des sculptures, des photos et des vidéos d'artistes. En outre, pendant les 6 mois de l'exposition, il y a également des programmes de cinéma et de symposiums universitaires, des visites, des discussions et des ateliers, des expériences créatives pour les enfants et les événements spéciaux pour tous les âges. Alistair Cox, l'ambassadeur adjoint australien en Indonésie, a déclaré que cette exposition était l'une des célébrations des arts les plus importantes dans la région Asie-Pacifique et avait attiré un public de partout dans le monde. L'Australie et l'Indonésie ont des relations à long terme dans le domaine de l'art avec diverses expositions, échanges, collaborations, résidences et subventions qui font les relations entre les acteurs créatifs des deux pays plus proches. Les nids hirondelles indonésiennes sont de plus en plus connues et favorisées par les Chinois. Compte tenu de nombreuses conditions en matière de qualité et de santé ont été reconnues. Les nids sont sans danger pour la consommation. comme cité par l'agent de presse Antara, le président de l'Association indonésienne des entrepreneurs pour les nids oiseaux, Budi Mranata, a déclaré mercredi à la presse de Shanghai, en Chine, qu'il était difficile de fournir des nids d'oiseaux à la Chine, parce que de 2010 jusqu'à 2011, les nids d'oiseaux indonésiens ont été interdits d'entrée. À cette époque, l'Indonésie était touchée par la grippe aviaire. Il a ajouté qu'avec la demande croissante de nids d'oiseaux en Chine, le ministère indonésien du commerce estimait qu'il était nécessaire de définir des règles claires, notamment en matière de qualité. Le ministère du commerce et l'agence de quarantaine contribuent également à la santé et à l'hygiène des produits de nids d'oiseaux destinés à l'exportation. Actuellement, le nombre de sociétés de nidification d'oiseaux ayant le droit d'exporter atteint 21 sociétés avec une production annuelle de 1105 tonnes. L'association continue à encourager le nombre d'exportateurs à augmenter afin de pouvoir répondre à la demande d'exportation. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les émissions de la Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/FRENCH.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel Pesona Indonesia.
Chers auditeurs, bonsoir. Rencontrons-nous dans le magazine culturel, un programme quotidien sur le tourisme, les arts, les alimentations et la culture provenant de diverses régions d'Indonésie. Dans l'édition d'aujourd'hui, nous vous inviterons à visiter la grotte Lawa à Purbalingga, Jawa Centre. En général, les grottes indonésiennes sont constituées de karst et sont situées sur la pente des collines, de sorte qu'il existe une stalagmite et une stalagmite. Mais il y a l'une des grottes de Purbalingga dans le centre de Java, à savoir la grotte de Lawa, qui est incluse dans une grotte volcanique. La grotte est formée de lave de volcan actif qui a fondu et refroidi pendant des millénaires. Le processus de refroidissement de la lave a rendu ces pierres dures et résistantes avec une couleur noire sans apparaître ni stalagmite ni stalagmite. L'épaisseur des pierres peut atteindre 50 mètres, de sorte qu'elles puissent résister aux tremblements. Ces pierres ne sont pas situées sur les pentes des collines, mais sur les collines. Cet objet touristique est appelé la grotte Lawa parce qu'il y a beaucoup de chauves-souris dans la grotte. La grotte Lawa, ou généralement appelée Golaga par la population locale, a environ 1,5 km de long à 900 mètres d'altitude, ce qui lui donne un air pur. Dans la grotte, il y a 14 petites grottes, entre autres les grottes de Pancuran Slamet, de Sendang Slamet et de Dada Lawa, etc. En plus de profiter de la beauté de la grotte naturelle, le gouvernement régional de Purbalingga rend cette destination touristique d'être plus intéressante. Depuis que ce tourisme est exploité un jour après l'aide de l'Afitor en 2008, cette destination touristique offre un stand de café unique dans la grotte. Grâce à l'étal de café, les touristes s'étonnent beaucoup et les touristes qui la visitent augmentent drastiquement. On peut le voir sur les données fournies par le responsable du tourisme sportif et du tourisme Prayitno. L'installation convient aux touristes qui souhaitent se détendre après avoir fait le tour de la grotte, boire une tasse de café chaud en admirant le paysage exotique de la grotte ornée de la lampe colorée qui s'allume tour à tour pour devenir une expérience inoubliable. Le gouvernement local a commencé à améliorer l'extérieur et l'intérieur de la région de la grotte Lawa. La passerelle consiste en un agencement de briques qui ressemble à une porte de l'air du royaume Majapahit. En entrant dans la région, il y a une terre d'herbe et de pins ombragés. Le spot est destiné à l'endroit où prendre une photo. Parce que cet objet touristique a été géré par le gouvernement local, l'accès à la grotte de Lawa est assez facile. Si vous allez de la ville de Purbalingga, la distance est de 27 km. Après l'arrivée sur la route Purbalingga-Pemalang, il y a une jonction avec panneau de signalisation. Conformément à la direction, le voyage se poursuit vers le nord sur une distance de 3 km. Nous vous suggérons de venir ici le matin, car la grotte est ouverte de 8h à 17h. Le prix du billet d'entrée est relativement bon marché. Lundi au vendredi ne coûte que 6000 rupiah par personne, tandis que le week-end coûte 750 rupiah par personne. Serviteur, c'était le magazine Culture Repair ce soir. Merci de votre attention. À demain.
Mari berbahasa Indonesia. Parlons indonésien. Vous invite à parler bien et facilement indonésien.
Bonsoir tous les amis. On se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous introduit des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre La Voix de l'Indonésie, la station de radiodiffusion à l'étranger de Radio République Indonésie, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République de l'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est « Perutku agak sakit ». Je répète, « Perutku agak sakit ». En français, j'ai un peu mal au ventre. Bonne écoute. Chers amis, je vais vous donner l'exemple d'une conversation intitulée Perutku agak sakit. Perutku agak sakit. En français, j'ai un peu mal au ventre. Les personnages sont Dinda et Tony. L'emplacement est à la maison de Joko. La situation, Tony et la famille de Joko célèbrent l'anniversaire de Tony. Ils sont en train de se bavarder.
Kamu makan kuenya sedikit sekali, padahal kuenya masih banyak. Mengapa?
Iya, perutku agak sakit.
Après avoir écouté cette conversation, je vais vous introduire des vocabulaires et des phrases indonésiennes liées au sujet d'aujourd'hui. Perutku agak sakit. En français, j'ai un peu mal au ventre. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois et vous pouvez les répéter après moi. Kue. Kue, qui signifie gâteau. Lapar, lapar, qui signifie avoir faim. Makan. Makan, qui signifie manger. Padahal. Padahal, qui signifie même si. Sedang berulang tahun. Sedang berulang tahun, qui signifie il fête son anniversaire. Kamu makan kuenya sedikit sekali, padahal kuenya masih banyak. Kamu makan kuenya sedikit sekali, padahal kuenya masih banyak. Qui signifie tu manges très peu de gâteau, même s'il en reste beaucoup. Mengapa? Mengapa? Qui signifie pourquoi? Perutku agak sakit. Perutku agak sakit. Qui signifie j'ai un peu mal au ventre. Dans le dialogue, Dinda dit kamu makan kuenya sedikit sekali, padahal kuenya masih banyak. Qui signifie tu manges très peu de gâteau, même s'il en reste beaucoup. Dans cette phrase, il y a quelque chose de contradictoire, c'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de gâteau, mais Tony ne mange qu'un peu. Dinda utilise le mot « padahal ». « Padahal » en français, « même si » pour exprimer quelque chose de contradictoire. Écoutez ce que Dinda dit. « Kamu makan kuenya sedikit sekali, padahal kuenya masih banyak. » Et voici d'autres exemples. « Dia sedih. » Padahal sedang berulang tahun. Dia sedih, padahal sedang berulang tahun. En français, il est triste, même s'il fête son anniversaire. Aku masih lapar, padahal sudah makan. Aku masih lapar, padahal sudah makan. En français, j'ai encore faim, même si j'ai déjà mangé. Adikku tidak mau makan, padahal dia lapar. Adikku tidak mau makan, padahal dia lapar. En français, ma sœur ne veut pas manger, même si elle a faim. La suite, Tony dit, perutku agak sakit. Perutku agak sakit. En français, j'ai un peu mal au ventre. Le mot agak dans cette phrase est la même signification que le mot sedikit ou un peu. Donc, la phrase perutku agak sakit est la même signification que perutku sedikit sakit. Voici des autres exemples. Dia agak sedih. Dia sedikit sedih. Qui signifie il est un peu triste. Aku agak lapar. Aku sedikit lapar. Qui signifie j'ai un peu faim. Avant de terminer le programme de l'apprendre l'indonésien d'aujourd'hui, pour comprendre plus, écoutons la conversation encore une fois.
Kamu makan kuenya sedikit sekali, padahal kuenya masih banyak. Mengapa?
Iya, perutku agak sakit.
Les amis, voilà l'édition de la rubrique Apprendre l'indonésien d'aujourd'hui. J'espère que cette édition pourrait être utile pour ceux d'entre vous qui veulent savoir plus l'indonésien. On se retrouvera demain avec d'autres sujets intéressants. Merci beaucoup pour votre attention et à demain.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir tous les amis, bienvenue dans le programme de musique de la voix de l'Indonésie, Pelangi Nada, en français, magazine musical. Dans cette édition, nous allons écouter les chansons d'Ardito Pramono. Il est nouveau chanteur indonésien de jazz qui a 23 ans. Il a commencé sa carrière en chantant les vieilles chansons indonésiennes, puis il a chargé sur la chaîne de YouTube. Après une longue période de travail, Dito a commencé à produire ses propres chansons. Il a sorti son mini-album en janvier 2017. Le chanteur qui aimait le musicien indonésien s'appelle Saiful Bahri a rapidement attiré le cœur de ses auditeurs, en particulier de la jeune génération. Il mérite vraiment d'être une idole car il est jeune, a une voix douce, sait créer des chansons et sait jouer de la musique. Chers auditeurs, je veux présenter la dernière chanson d'Ardito Pramono dont le titre est Bitter Love, ou en français, Amour aimé. Bonne écoute.
That is bitter in every day, but then I feel it that you'll be the only one. But sometimes it doesn't have to be so sure. The sweetest love can be so hard to find. We'll be better in every way, but then I would go to be in other space. Sometimes the bitter of love can be so good. It's like a coffee with a rainbow's moon. Sometimes you feel off, but sometimes you're feeling right. Is it to be or it is not to be? To fall in love again, to be the one for me. Sometimes you fall, but every time we'll be together, we'll be mad in every way. September. Sometimes recalling things will be so good. It's like a perfect cake that my grandma's made. Sometimes you feel it right. Is it to be or it is not to be? To fall in love again, to be the one for me. Sometimes you fall, but every time we'll be together, we'll be better in every way. To be in other space. Sometimes the bitter of love can be so good. It's like a coffee with a rainbow. It's like a coffee with a rainbow. It's like a coffee with a rainbow's moon. With a rainbow's moon. With a rainbow's moon.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson intitulée Bitter Love ou en français Amour Amé, chantée et créée par Ardito Pramono. Il a interprété des chansons dont les genres sont jazz et bossa nova. Ce qui fait intéressant, malgré le titre d'amour, il a admis que cette chanson ne s'agit pas de l'amour. Cette chanson parle de la diversité, du sens de l'unité entre des personnes qui a été unies depuis longtemps, telles que frères et sœurs, jeunes couples, mari et femme et autres relations. Avant de lancer la chanson de Bitter Love en 2018, Ardito a activement publié des chansons en 2017. Même, il a déjà sorti deux petits albums l'année dernière. Chers auditeurs, la chanson suivante d'Ardito Pramono que nous allons écouter s'intitule Bila, en français Si. Bonne écoute! Voilà la chanson de Ardito Pramono, intitulée Bila, ou en français, Si. C'est l'une des chansons de la bande originale du film intitulé Susa Signa. Par cette chanson, Ardito est de plus en plus connu. Quand on lui a demandé de remplir la bande originale de ce film dramatique comique, Il a affirmé être heureux et enthousiaste face à cette chance. Il a même admis qu'il n'avait besoin que d'une journée pour faire la chanson. En décembre prochain, Ardito prévoit de lancer un mini-album contenant 6 chansons. Chers auditeurs, pour terminer l'édition du magazine musical d'aujourd'hui, écoutons la chanson de Ardito Pramono dont le titre est « Fake Optique ». Voici la chanson. Bonne écoute. Au revoir.
It's only just you and me, friend. My life has been fooled on someone who's always been their cook. Thought it'd be the one pleasure, it's always mine. Goodbye for the best, all the blessings for the rest. Here, there, everywhere, fake optics are the same mistake. Won't be so surprised to find the place. You are my future hope, please don't make the same mistake. 'Cause I want you to be free.
I want you to be free.
My life has been full. Someone who always been there cool. Thought it'd be the one pleasure, it's always mine. It's goodbye for the best, all the blessings for the rest.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, avant de terminer cette émission, comme d'habitude, nous allons présenter d'abord des chansons indonésiennes. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité et au revoir.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Écoutez tous les jours nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la voix de l'Indonésie, RRI au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voiindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.